Votre invité Frédéric Rivière, vous recevez ce matin la députée des Yvelines, Yaël Braun-Pivet, présidente de la commission des lois de l'Assemblée nationale.
Bonjour Yaël Braun-Pivet.
Bonjour.
C'est aujourd'hui que le pass vaccinal va entrer en vigueur. Pour vous, est-ce que c'est un outil sanitaire ou un outil politique ?
C'est un outil sanitaire, évidemment. On voit que grâce à la vaccination, notre pays et nos concitoyens sont bien mieux protégés contre les différentes vagues de cette épidémie. Donc évidemment un outil sanitaire, et c'est d'ailleurs ce que relève le Conseil constitutionnel dans sa dernière décision de vendredi. C'est parce que le gouvernement et le Parlement poursuivent un objectif de protection sanitaire des Français que nous pouvons imposer un tel passe.
Est-ce qu'il n'arrive pas à contre-temps, ce passe vaccinal, puisqu'on voit que les hospitalisations en soins critiques sont en baisse avec ce variant Omicron ?
Et vous savez, si les hospitalisations sont en baisse, c'est justement parce que la population française est de plus en plus vaccinée, donc elle est de plus en plus protégée. Donc l'effort sur la vaccination doit rester constant, doit s'amplifier. On voit que grâce au passe vaccinal, des centaines de milliers de nos compatriotes sont allés vers la vaccination pour la première fois. Donc on voit qu'il a un effet majeur, incitatif et de protection pour la population. Donc il est très important. Et ça fait partie du dispositif global. Vous savez, si on n'avait pas aujourd'hui le pass vaccinal, compte tenu du niveau de contamination, on devrait avoir des mesures plus restrictives pour nos libertés. Donc moi, je crois que c'est un bon outil qui nous permet de continuer bon an mal an à vivre presque comme avant.
Mais on n'avait pas le vaccinal. On l'a à partir d'aujourd'hui. On avait le pass sanitaire.
Tout à fait. C'est une étape supplémentaire. C'est une étape supplémentaire, mais qui permet de vacciner plus et mieux nos compatriotes.
Au moment de la discussion sur le pass sanitaire, précisément, vous aviez exprimé de fortes réserves sur son champ d'application. Je vais citer les propos que vous aviez tenus dans une interview au Figaro. C'était le 23 avril 2021. Je pense, disiez-vous, que le pass sanitaire ne devrait pas concerner l'accès aux services essentiels parce qu'il empiéterait trop sur nos libertés. On doit continuer au quotidien à aller et venir. Il est par exemple hors de question d'interdire à quiconque de prendre les transports en commun. C'est une ligne tracée en commission des lois à laquelle je souscris totalement. Par ailleurs, disiez-vous encore, nous devons laisser l'accès libre au lieu de la vie quotidienne. Ce sont des propos que vous avez reniés d'une certaine manière.
Pas tout à fait. Aujourd'hui, vous pouvez prendre les transports de la vie quotidienne pour aller travailler.
Train, c'est un transport en commun.
Non, quand on parle de transport de la vie quotidienne, c'est le transport c'est le métro, c'est l'autobus. Ce ne sont pas des transports de longue distance. Les lieux de la vie quotidienne, c'est l'épicerie, c'est la boulangerie, c'est le café. Aujourd'hui, pour rentrer dans un bureau de tabac pour acheter un paquet de cigarettes, vous n'avez pas besoin de présenter un
pass. Ce n'est pas forcément la meilleure chose à faire.
Sanitaire, ça n'est pas forcément la meilleure chose. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aussi, vous savez, l'épidémie, elle a évoluer. Et qu'en fait, le rôle du politique aujourd'hui, c'est de s'adapter à cette évolution et d'ajuster sa politique, parce que nous ne pouvons pas savoir en 2021 comment la situation va être en 2022. Et malheureusement, aujourd'hui, je ne suis pas à mesure de vous dire quelle sera la situation dans 6 mois. Donc il faut sans cesse s'adapter en étant très précautionneux, et justement au Parlement, c'est ce que nous faisons, plus de 12 textes, des centaines d'heures de débats, parce que justement nous cherchons à avoir des mesures très proportionnées, très justifiées par la nécessité de la situation, et ça c'est tout le travail que nous faisons au long cours. Donc je ne renie pas mes propos, mais la situation a évolué et je me suis adaptée, et je crois que c'est ce qu'on attend aujourd'hui d'un responsable politique.
La multiplication des violences contre les élus est un sujet qui vous préoccupe. Vous en avez même été victime d'injures, de menaces. Est-ce qu'il vous arrive parfois d'avoir peur ?
Je suis inquiète, en tout cas, parce que les menaces sont fréquentes, elles sont très violentes, très agressives, elles sont souvent dirigées vers nous, mais également vers nos familles, vers nos enfants, vers nos conjoints. Donc c'est inquiétant, et c'est inquiétant parce que parfois on voit que ça franchit le cap du réel, j'allais dire, avec des insultes physiques à l'égard des députés. On a vu Romain Gros se faire agresser ce week-end, on a vu Pascal Bois se faire brûler sa voiture à son domicile. On en a vu un autre se faire lapider. Voilà, c'est très inquiétant et il faut bien que chacun ait conscience que ça nous concerne tous parce que c'est notre démocratie qui est en jeu, c'est le débat public. Dans une démocratie, on débat, on discute, on n'est pas d'accord, on confronte les idées, on argumente, on essaye de se convaincre, mais en aucun cas cela passe par la violence ou l'intimidation.
Lorsque le président de la République a tenu ses propos sur son envie d'emmerder les non-vaccinés, est-ce que vous avez pu penser que ça risquait d'aggraver cette hostilité à l'égard des élus de la majorité ?
Je ne crois pas, vous savez, dans le président, il avait un dialogue avec, avec des soignants.
Mais je vous parlais en fait de votre réaction personnelle. Ouais, aucun moment vous vous êtes dit, ça risque d'aggraver les choses ?
Non, parce que aujourd'hui, je trouve que la situation est tendue. Elle n'est tendue pas par les propos du président de la République, mais par cette opposition d'une partie de la population à la politique sanitaire que nous menons. Et cette opposition, elle devient complètement irrationnelle. Elle devient irrationnelle parce que on entend souvent des propos complotistes. On a des remises en cause de la parole des scientifiques. Et on sort du simple débat et de la confrontation d'idées à laquelle je faisais référence tout à l'heure. Et il y a un moment où effectivement, certaines personnes mettent en danger le pacte social, et c'est très grave.
C'est peut-être parce que vous pensez au fond qu'un Parlement qui fonctionnerait mieux réduirait ce fossé entre les citoyens et les élus que vous venez d'adresser un certain nombre de propositions, 25 précisément, au président de la République pour un Parlement renforcé, dites-vous. D'abord, est-ce qu'il vous a répondu, le président de la République ? Est-ce que
il a fait part
de son appréciation ?
Alors, nous réfléchissons collectivement hein, sur ce sujet. Le président de la République, je lui ai adressé mes propositions, évidemment, et je le laisserai le moment venu dire ce qu'il en retire. Le fait est que moi, justement, à travers ces derniers mois, j'ai le sentiment, peut-être erroné, mais que les Français attendent beaucoup du Parlement parce que...
De se sentir mieux représentés.
Ils veulent un Parlement qui les représente mieux et ils veulent un Parlement qui soit plus fort, qui exerce pleinement ses missions. Et certains ont des grandes propositions qui peuvent paraître spectaculaires, tel retour au septennat, une proportionnelle intégrale, la révocation des élus. Moi, je crois plutôt qu'il y a un certain nombre de réglages à faire, de propositions qui sont peut-être plus pratiques, plus pragmatiques, c'est mon style, mais qui vraiment résoudraient, à mon sens, une partie de la crise démocratique avec un Parlement qui représente mieux les Français et qui joue pleinement son rôle. Oui.
Parmi lesquels, alors, la session ordinaire du 15 septembre au 30 juillet, donc il n'y aurait qu'une session dans l'année, et avec l'adoption par l'Assemblée au mois de juin du calendrier de la session à venir, c'est-à-dire que vous ayez de la visibilité sur le calendrier législatif.
Que nous ayons de la visibilité, ça nous permettrait de travailler beaucoup mieux en amont les projets de loi qui nous seraient soumis, ça nous permettrait de consulter les citoyens, de faire des grandes concertations sur nos territoires, dans nos circonscriptions, dans les Yvelines. Moi, je pourrais faire des ateliers citoyens à Sartrouville ou au Vésinet. On pourrait consulter les syndicats, les organisations professionnelles, le défenseur des droits. Bien souvent, tout cela se fait trop rapidement et nous n'avons pas le temps de créer finalement le débat et de faire en sorte qu'il infuse dans la société. Donc oui, un calendrier prévisionnel bien en amont. Il y a aussi maîtrise de l'ordre du jour, de telle sorte que nous puissions au Parlement beaucoup plus inscrire des propositions de loi qui sont issues de nos travaux.
C'est-à-dire qui viennent des parlementaires, contrairement aux projets de loi qui viennent du gouvernement.
Voilà, parce que souvent nous menons des travaux transpartisans qui allient majorité et opposition. Nous arrivons à des mêmes conclusions, mais nous n'avons pas accès à l'ordre du jour. Donc il faudrait que quand nous arrivons à des mêmes conclusions, nous puissions inscrire ces textes et également faire en sorte que des textes qui remportent un large consensus transpartisan, je pense à la proposition de loi sur la fin de vie, puissent avoir un accès à l'ordre du jour sans l'autorisation soit d'un groupe politique, soit du gouvernement.
Ça suppose que le gouvernement renonce à une partie de son pouvoir ou de ses prérogatives et ça ne sera pas forcément simple.
Mais oui, mais c'est pour ça que ce rapport vient du Parlement. Ouais. Et encore une fois, moi je crois que les Français attendent un Parlement plus puissant.
Merci Yael Brown-Pivet. Bonne journée.
Merci à vous.